7h40, notre invité ce matin, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Monsieur Trudeau, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
Beaucoup de dossiers en cette fin d'année. C'est votre deuxième mandat comme premier ministre, gouvernement minoritaire cette fois. Un dossier dont on a peu entendu parler durant la campagne électorale, puis depuis, je dirais, le retour après l'élection, c'est le dossier de la protection des informations confidentielles, le vol d'identité. Vous avez vu le dossier Desjardins. Oui. À peu près tous les Québécois sont potentiellement des cibles pour des voleurs d'identité. Comment ça se fait que ça n'a pas l'air d'intéresser le gouvernement fédéral?
Au contraire, on a mis de l'avant une charte sur la protection des données et de la vie privée. Au printemps, on avait annoncé ça en France lors d'une grosse rencontre où on a parlé de l'attentat de Christchurch aussi. On sait qu'on a besoin de nouveaux outils pour assurer la protection des données, pour permettre à quelqu'un de contrôler ses propres données, de retirer ses données d'institutions qui comme Facebook, qui voudraient pas partager, qui voudraient pas expliquer, qui des fois sont moins corrects dans la façon qu'ils utilisent leurs données. On veut donner plus de contrôle aux individus, mais c'est quelque chose.
Non, mais
faut
concrètement,
faire avec
là, moi, je me suis fait voler mon identité, par exemple. Mm-hmm. Quels sont les outils qui, dans la prochaine année, vont être créés par le fédéral, les lois, les outils pour me permettre de corriger la situation, de ne pas avoir le fardeau de ça? Une charte, je veux bien, là, mais concrètement, vous allez faire quoi?
On a déjà des outils en place.
Comme quoi?
Mais on sait que la police a des outils pour faire des suivis, mais on a aussi de l'aide dans nos institutions pour aider les gens à retrouver le contrôle de leur identité. Ben, mais il faut en faire plus, ça, je le sais.
Non, mais M. Trudeau, là, Desjardins se fait voler. Mm-hmm. Desjardins me dirige chez Equifax. J'apprends cette semaine que Equifax prend de l'information, vend ça à des tiers, et les tiers les vendent à des gens pour des fins publicitaires. Fait que dites-moi pas que la police est équipée, dites-moi pas qu'on est équipé, là.
On n'est pas assez équipé, je suis tout à fait d'accord, il faut qu'on en fasse plus, et on est entré, on a mis en place une ministre du numérique pour justement faire des suivis sur ces dossiers-là, parce que on a beaucoup de lois qui datent d'avant Internet, il va falloir qu'on se dote de plus d'outils, si je suis d'accord.
Est-ce que le numéro d'assurance sociale qu'on connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années est appelé à disparaître?
C'est une conversation qu'on pourrait avoir. Je ne le sais pas. J'ai pas la réponse.
Ça n'a pas l'air à vous intéresser.
Oui, ça m'intéresse énormément. On est dans une ère hyper numérique, mais on reconnaît que dans ce monde-ci, il y a des leviers que les gouvernements n'ont plus. Il y a énormément de contrôle par des compagnies qui ne sont pas sur notre territoire, et c'est de travailler avec ces compagnies-là pour se doter de nouveaux outils. C'est un défi énorme. C'est quelque chose sur lequel on travaille comme tous les pays du monde. Il faut absolument en faire plus.
Mais est-ce que ça veut dire créer une identité numérique pour chaque citoyen canadien?
Ben, l'Estonie l'a fait, il y a d'autres pays qui l'ont fait, c'est peut-être vers ce point-là où on va, mais il y a des préoccupations par rapport à la vie privée, il y a des préoccupations par rapport à la protection de ces personnes-là. Il va falloir qu'on pense de façon très rigoureuse là-dessus.
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté de voler votre identité?
Pas à ce que je sache.
Pas à votre connaissance?
Non.
OK. Deuxième sujet. Là, je viens de parler du vol d'identité qui en tout cas, est un problème assez sérieux. Je vais vous parler de SNC-Lavalin. Mm-hmm. On a vu la décision hier, l'entente entre les parties, amende et poursuite des activités pour SNC-Lavalin. Regrettez-vous d'avoir mis autant de pression pour qu'on puisse aboutir à un accord de réparation?
Moi, ma responsabilité, ça a toujours été d'essayer de défendre les travailleurs, les gens qui risquaient de perdre leur job. On avait un outil, un accord de réparation, et on était...
Que vous avez introduit à la demande de SNC-Lavalin.
Qu'on a introduit à la demande de plusieurs compagnies,
mais
parce que
principalement SNC-Lavalin.
SNC était un exemple très courant d'une préoccupation, mais tous nos alliés aux États-Unis, en Europe, ils ont ces outils-là. Alors, c'est une façon de protéger les travailleurs d'une compagnie qui ne se serait pas comporté de la bonne façon ou qui aurait été coupable de corruption.
Il y a un VP qui était reconnu coupable de corruption. Dans le cas de l'entreprise, on parle de fraude dans la décision qui a été rendue, ce qui permet de protéger les emplois. On comprend ça. Croyez-vous sérieusement que la très haute direction de SNC n'était pas au courant de ces pratiques de corruption, de pot de vin.
Ben, il y a eu un renouvellement de la haute
direction. Non, mais les gens qui étaient là à l'époque.
À ce moment-là. Ben, ça, c'est une décision qui a été regardée et un jugement qui a été porté par un processus indépendant.
Je comprends, mais c'est comme si au Canada, les bandits à cravate étaient protégés.
Non, on ne veut pas protéger les bandits à cravate, mais on comprend que ça prend une façon, une approche responsable pour s'assurer qu'on n'est pas en train de punir les femmes et hommes qui travaillent pour la
Non, mais est-ce qu'on pourrait envisager, vous croyez, des peines plus sévères pour des crimes économiques, disons, de grande portée, là? Moi, quand je vois l'ancien PDG, purge à peine 20 mois à la maison de 1 million, c'est nice.
Oui, c'est une préoccupation que beaucoup de gens ont.
Et vous, l'avez-vous?
Oui, je l'ai. J'aimerais m'assurer que... Parce que quand on a un système qui a de l'air d'être à deux vitesses, les gens perdent confiance dans leurs institutions et dans le système. Et c'est ça qui mène à des... en politique, ça mène à des excès de populisme. En société, ça peut augmenter un sentiment de déconnexion et de frustration envers un monde qui est en train de changer. Il va falloir qu'on démontre qu'on est en train d'être équitable.
Je reviens vers le numérique. Vous avez toujours refusé de faire en sorte que des sociétés comme Netflix, Apple, Google, les géants là, et tous les autres imposent la taxe de vente fédérale. Le Québec l'a fait. Savez-vous, en date du 4 décembre, combien le gouvernement du Québec est allé chercher en revenus de ces sociétés, le Google, Amazon, Apple, Netflix, Spotify et tous les autres?
Mmh, dis-le moi, en TVQ?
Oui, en TVQ. 68 millions.
Mmh.
Vous ne trouvez pas que c'est une belle source de revenus? Pourquoi vous avez, pendant toutes ces années-là, renoncé à la percevoir?
En 2015, j'ai fait une promesse de ne pas augmenter les taxes pour les consommateurs. En 2019, le contexte a changé, puis j'ai pris l'engagement de le faire par désir d'être équitable.
OK, mais ce n'était pas d'augmenter les taxes. La taxe existait pour des joueurs comme Vidéotron.
OK.
Alors, à ce moment-là...
Beaucoup de citoyens qui n'avaient pas à payer la taxe pour Netflix.
OK, et mais là, pourquoi favoriser une entreprise américaine plutôt qu'une entreprise canadienne?
Il y a 4 ans, on a pris cette décision-là, mais là, le contexte a changé. Puis
qu'est-ce qui a changé?
Pris une autre décision. Il y a beaucoup plus de services. Il y a des Disney, il y a d'autres. On voit que nos partenaires autour du monde sont en train d'amener ces impôts-là, ces taxes-là. On voit que des provinces sont en train de le faire, comme Québec. Je pense que les gens comprennent que c'est quelque chose qu'il faut faire.
C'est quand même étonnant. Le Québec l'a fait, puis vous le dites, d'autres endroits aussi, là. Il n'y a pas eu de vague, il ne s'est rien passé, il n'y a pas des emplois qui ont disparu. Puis on est allé chercher 68 millions, c'est plus. Puis le fédéral regarde ça aller pendant 4 ans, puis il dit, finalement,
non,
nous
non,
autres... finalement...
J'avais fait une promesse en 2015 que je n'amènerais pas de taxes sur Netflix, et je ne l'ai pas faite. En 2019,
ça donne l'impression d'un premier ministre sous influence de ce gros lobby de société.
Au contraire,
c'était
les consommateurs. On ne voulait pas imposer des taxes dessus.
Puis là, vous pensez que les consommateurs veulent plus?
On a vu que le contexte a changé. Il y a beaucoup plus de joueurs et il va falloir qu'on soit équitable.
Sincèrement, c'est dur à suivre. Vous étiez pas équitable face aux entreprises comme Bell, Vidéotron, puis là, vous dites maintenant,
c'était
on est équitable.
C'était des nouvelles technologies en 2015 encore, et on a regardé comment faire, on a travaillé avec nos partenaires à l'international, puis là, on s'avance avec cette imposition.
OK. Le dossier des gens qui souffrent de cancer, assurance-emploi. 15 semaines, c'est le plafond. Vous avez dit qu'on pourrait l'amener à 26. C'est une possibilité. C'est à peu près ce que 75% des gens arrivent à prendre, là. Allez-vous le faire d'abord?
Oui, on va le faire. On s'est engagé à augmenter au moins jusqu'à 26 semaines. Mais comme vous savez, j'ai rencontré des gens qui ont fait des arguments extrêmement intéressants pour l'augmenter encore plus. Alors, on est en train de regarder.
Quand vous dites plus, ça pourrait aller jusqu'à combien de semaines?
Je ne sais pas. On a des ministres qui travaillent là-dessus, mais on reconnaît que pour plusieurs personnes qui souffrent d'un cancer, 26 semaines, même, c'est mieux que 15, mais 26, c'est pas assez aussi.
Donc, ça pourrait aller jusqu'à quoi? 40 semaines? Ou ça pourrait aller jusqu'à ce que les gens en aient besoin?
On va regarder. Je ne veux pas m'avancer trop là-dessus. On est en train d'étudier.
Avez-vous un échéancier là-dessus?
On veut le faire rapidement.
Rapidement, ça veut dire quoi, ça?
Rapidement, ça veut dire... ce serait un peu un parlement minoritaire qui décidera, mais on sait que c'est un engagement qu'on a pris, qu'on va vouloir faire.
Le retour de Jean Charest en politique, vous en pensez quoi?
Écoute, le Parti conservateur a des réflexions à prendre sur l'environnement, sur les aspects progressifs de défense des droits des femmes, défense des communautés LGBT. Ils ont des réflexions à faire et je les laisse faire. Moi, j'ai pas vraiment d'opinion sur qui devrait être le prochain chef conservateur.
Non. Ma question, c'était, qu'est-ce que vous pensez du retour peut-être de Jean Charest en politique?
Il fera ses propres décisions. Je sais que la politique, il en a fait pendant 28 ans, je pense. C'est tough sur un individu, sur une famille. Mais s'il décide de se relancer, je lui souhaite bonne chance.
On a eu plusieurs cas de violence conjugale extrême. Des ex-conjoints qui ont tué leurs conjointes, ex-conjointes, leurs enfants dans certains cas. Dans plusieurs de ces cas, des restrictions avaient été imposées d'entrer en contact avec leur ex-conjoint, des restrictions qui n'ont pas été respectées. Et de toute façon, c'est à peu près impossible de vraiment pouvoir appliquer ces restrictions. À Québec, hier, au bureau de la ministre Tourna Lebel, on a laissé entendre qu'on était ouvert à la discussion de bracelets électroniques, mais en précisant qu'il fallait avoir un dialogue avec le fédéral, c'est le code criminel qui est impliqué. Êtes-vous ouvert à la possibilité d'imposer ce type de contrôle pour des gens qui potentiellement peuvent être violents?
Je suis ouvert à tout ce qui va garder les gens en sécurité. On a fait des changements à la loi sur les armes à feu. On est en train de le faire pour permettre aux policiers d'enlever pas seulement les armes à feu, mais la permission d'aller acheter d'autres armes à feu pour quelqu'un qui est sous accusation de violence domestique. Par rapport à ce bracelet, je sais qu'il y a eu des réussites en Espagne, je pense. La France commence à regarder ça. Ce serait quelque chose qu'on serait ouvert à regarder. Il y a des questions au niveau de la vie privée, mais je pense qu'on peut équilibrer la protection d'une victime potentielle comme étant plus important, mais il faut regarder ça attentivement.
Se servir des technologies pour mieux protéger.
Je suis ouvert à ça. Il faudrait avoir des discussions.
Pas d'échéancier.
Ben, écoutez, on commence un nouveau mandat. On a bien des priorités. On va baisser les impôts pour les citoyens. On va investir plus dans l'allocation canadienne aux enfants. On est en train de lutter contre les changements climatiques de façon très rigoureuse. Il y a beaucoup à faire, okay. Puis on va faire. On a beaucoup d'ambition.
OK. Parlons des changements climatiques. Le Canada décide. Hier, on a appris, entre autres, que le Québec n'atteint pas ses cibles pour ce qui est de la réduction des gaz à effet de serre. La consommation d'essence continue d'augmenter. Vous prenez des engagements. Les cibles, et pas que votre gouvernement, c'est assez historique, là. Les politiciens visent des choses grandioses et dans les faits, ça n'arrive pas. Quelle est la crédibilité d'un gouvernement qui n'atteint pas ses objectifs?
On est déjà rendu à trois quarts de la distance vers la réduction des cibles qu'on avait promis pour 2030. Et on a d'autres étapes, d'autres éléments qu'on va mettre en place. On sait qu'on doit non seulement atteindre nos cibles en 2030, on doit les dépasser, puis on doit aller vers net zéro pour 2050.
Mais pour faire ça, vous allez faire quoi?
On continue d'augmenter jusqu'en 2022 le prix sur la pollution à travers le pays. On est en train de planter.
Vous parlez de la taxe carbone.
Oui, la taxe carbone. Et on va regarder quelles seront les prochaines étapes et à quel niveau d'ambition il va falloir qu'on ait.
Vous pensez l'augmenter à combien la taxe carbone pour que ce soit efficace pour l'atteindre des cibles?
Bien, une des choses qu'on a dites, c'est que on va parler avec des scientifiques. On va établir une piste claire et scientifique pour c'est quoi les objectifs à tous les 5 ans pour atteindre le net zéro en 2050. Et les scientifiques vont nous faire des recommandations sur et la taxe carbone et les autres mesures de bannir le plastique, de planter des arbres, de protéger notre littoral puis nos terres. Il y a énormément de choses.
Mais ça veut dire une augmentation du prix du litre d'essence à venir?
Ben, on
au Québec,
aussi,
là, c'est à peu près 12 sous le litre.
On sait aussi que l'achat de véhicules électriques, c'est hyper important comme partie de la transition. On aide énormément les gens à pouvoir s'acheter des voitures électriques. On passe à l'électrification des réseaux de transport. On est en train de faire des choix qui vont permettre aux gens de commencer à faire des choix
Mais
plus abordables.
Il y a quelque chose que j'ai de la misère à comprendre. Mm-hmm. Vous imposez une taxe carbone aux provinces qui ne l'ont pas fait elles-mêmes, puis vous la remboursez aux citoyens.
Mm-hmm.
Au Québec, on l'impose, mais mon gouvernement ne me rembourse pas.
Mm-hmm.
bon, je suis défavorisé. J'aurais dû attendre que vous le fassiez parce que vous m'auriez remboursé ce que j'ai donné.
Ça, c'est un choix que les Québécois, que le gouvernement du Québec a pris. Les provinces qui ne voulaient pas suivre le même modèle
le
que
Québec
le fédéral.
Le Québec innove et les Québécois sont pénalisés.
C'est un choix. Ben, par exemple, le Nouveau-Brunswick, mm-hmm. où on avait une imposition de la taxe du carbone fédérale parce qu'ils n'avaient pas de plan, viennent juste de signer une entente que c'est eux qui vont percevoir maintenant la taxe sur le carbone parce que c'est au même niveau que partout ailleurs au pays. Et eux, ils vont décider ce qu'ils vont faire avec. Ils peuvent faire des réductions d'impôts, ils peuvent faire des investissements dans des technologies vertes, des investissements pour transformer l'économie. C'est la province qui va décider qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces revenus-là. Le fédéral, quand nous, on percevait, on leur tournait directement aux citoyens, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Deux des plus gros secteurs de dépenses, éducation, santé. Mm-hmm. Le réseau de la santé, c'est le Québec qui le gère, puis les provinces. Le réseau d'éducation, c'est encore là le Québec. Allez-vous augmenter, parce que la facture explose en santé, la facture grimpe en éducation, les profs sont pas assez payés. Allez-vous mettre plus de cash sur la table? Parce que, historiquement, le fédéral met des grands principes de santé publique, en fait, de santé. Mm-hmm. Puis quand c'est le temps de pas distribuer aux provinces, le fédéral est pas pire. Alors, vous donnez au Québec des défis à relever, allez-vous mettre du cash sur la table?
Oui.
Plus.
Oui, plus de cash, absolument. On a promis 6 milliards de dollars de plus dans notre plateforme. C'est ce qu'on avait fait en 2015. On avait promis 3 milliards de plus. Finalement, on a donné 10 milliards de plus. On sait que ça prend des investissements en santé. On a ciblé accès des médecins de famille, aide pour la santé mentale, de l'aide sur les assurances médicaments, particulièrement pour les médicaments à ordonnance à prix très élevé pour des maladies rares. T'sais, y a des choses qu'on est en train de faire. Et on comprend que ça prend des investissements du fédéral.
Donc, vous allez le faire.
Oui, on va le faire.
Parlons de la relation avec la Chine. Mm. Le volet commercial, c'est une chose, mais il y a toujours ces deux Canadiens qui sont présentement détenus. C'est le mot à employer. Ça fait plus d'un an maintenant que c'est arrivé. Il se passe quoi avec ces deux Canadiens? Avez-vous des contacts? Est-ce que ces gens-là vont passer encore une année, deux années de plus là-bas?
J'espère que non. On travaille très fort là-dessus. Ça fait un an qu'on travaille avec nos alliés, avec un nouvel ambassadeur qu'on a choisi et envoyé, avec le gouvernement de la Chine. Ils savent très bien nos positions là-dessus. J'ai eu des contacts directs avec le président Xi. On a parlé beaucoup avec nos alliés qui, eux, font des représentations auprès des Chinois pour dire qu'ils sont préoccupés par le sort des Canadiens. On est en train de mettre
la version officielle, là, pourquoi on les a arrêtés? Qu'est-ce qu'on vous dit?
La Chine les a arrêtés quelques jours après qu'on ait arrêté la PDG, la fille du PDG de Huawei. Et ils ont dit que c'était sur des préoccupations de sécurité nationale.
Croyez-vous ça?
Non.
Non, hein?
Non.
Vous pensez que c'est en représailles?
Et la Chine a même suggéré à ce moment-là que c'était en réaction contre le respect que nous avions eu pour un contrat d'extradition.
Est-ce que vous pensez, autrement dit, qu'ils vont rester détenus tant et aussi longtemps que l'héritière de Huawei va être au Canada gardée?
C'est une préoccupation évidemment qu'on a et on est en train de souligner directement aux Chinois que nous, à la Chine et aux Chinois, que nous, on ne voit pas le lien comme ça. On est en train de respecter un traité, la règle du droit au Canada. Cette détention arbitraire n'est pas bonne pour les Canadiens, mais pour les relations entre le Canada et la Chine non plus.
Dernière question. Puis là, ça va vous paraître bizarre, mais je vous la pose quand même. Quand vous étiez avec M. Macron puis Boris Johnson, vous avez parlé de quoi exactement?
Quelqu'un m'a demandé pourquoi si M. Trump s'en venait, parce que où est-ce qu'il allait être encore en retard? J'ai dit, il fait des conférences de presse, comme vous savez, ça prend toujours un peu plus longtemps. Et ensuite, je les ai informés.
Macron, vous, on a vu ce que vous avez dit. Macron n'a pas trop compris. Il était de dos. Il racontait quoi?
Je ne me souviens pas. On parlait comme ça. Il y avait une caméra à l'autre bout de la salle et j'aurais dû bien m'en douter qu'il y avait des micros qui allaient se rendre jusqu'à nous, mais C'est une chose qui arrive, là.
Puis quand il vous a traité de visage à deux faces, vous avez réagi comment?
Écoute, on a déjà eu des différends, moi puis M. Trump. La réalité, c'est qu'on a pu toujours travailler ensemble. On est arrivé à un accord signé pour l'ALENA qui est très positif, juste quelques jours plus tard.
Et avez-vous reparlé récemment?
Oui, on s'est parlé depuis une couple de fois, là.
Le ton est comment?
Le ton est correct. Le ton est correct. Là, évidemment, il y a beaucoup de pain sur la planche. Ces jours-ci, lui, c'est pas sa première préoccupation, c'est pas les relations avec le Canada, parce que ça va bien avec nous et on a signé un très bon accord.
M. Trudeau, merci d'être venu ce matin.
Ça fait toujours plaisir.
Justin Trudeau, premier ministre du Canada, 8 heures exactement. Et c'est l'heure du résumé en circulation.